Rembobinage, une émission d'histoire donc d'aujourd'hui. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Aux manettes, Alex Maillet, au micro, Paulin Ismar. Les histoires du petit Nicolas, comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France. Le 25 janvier 2007, quelques semaines après son investiture comme candidat de l'UMP à l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, parti à la conquête de l'électorat ouvrier, s'exprimait en ces termes. « Je me sens l'héritier de Jaurès quand il dit à la jeunesse « Le courage, c'est de choisir un métier et de bien le faire quel qu'il soit. Oui, je me reconnais dans Jaurès et dans Blum, dans Jules Ferry, dans Clémenceau comme je me reconnais dans Péguy, dans Bernard Lazare, dans Lyotet et dans le général de Gaulle. Monsieur Hollande, que je n'ai pas entendu souvent citer Jaurès, a dit « C'est une captation d'héritage. Ce que je sais, c'est que l'histoire de France n'appartient à personne et qu'en tout cas, elle n'a pas commencé avec le Parti Socialiste. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a qu'une histoire de France et non pas deux, parce qu'il n'y a qu'une seule France. » En invoquant de la sorte de grandes figures de la mémoire nationale qui relèvent traditionnellement de cultures politiques très différentes, Nicolas Sarkozy inaugurait ce qui allait devenir un trait constant de sa campagne électorale, la pratique de l'amalgame historique qui vise à inscrire dans une même filiation des figures aussi contradictoires que Jaurès et De Gaulle, Lyotet et Bernard Lazare. À y regarder de plus près, par petites touches, c'est en réalité à une véritable réécriture du récit national que s'est livré le candidat UMP durant la campagne électorale. Et c'est précisément à l'analyse de cette réécriture sarkozienne que s'est livré un groupe d'historiens réunis sous l'égide du CVUH, le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, à travers un petit livre qui se présente comme un dictionnaire, « Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France », qui vient de sortir aux éditions Agone. Laurence Decocq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire-géographie, formatrice à l'UFM de Versailles. Fanny Madeline, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez l'histoire médiévale à l'Université Paris 1 et vous avez donc toutes deux, avec Sophie Vanisch et Nicolas Offenstadt, coordonné l'écriture de cet ouvrage collectif qui se présente donc comme un petit dictionnaire qui vise à expliciter les références historiques mobilisées par le discours de Nicolas Sarkozy. Alors avant qu'on entre dans le contenu même de l'ouvrage, j'ai dit que celui-ci était étroitement associé au CVUH, au comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Est-ce que vous pourriez revenir sur la création de ce comité en 2005, ce qui lui a donné naissance?
Oui, alors le CVUH est né en juin 2005, au moment où, peut-être vous vous en souvenez, les débats publics étaient saturés par ce qu'on appelle des enjeux mémoriels, notamment autour de la loi du 23 février sur la présence positive de la France outre-mer. Alors le CVUH ne s'est pas constitué contre cette loi, mais il visait en fait à interroger trois aspects. D'abord, le premier, c'est les usages politiques de l'histoire, hein, donc les différentes formes d'instrumentalisation de l'histoire. Le second, c'est de travailler un petit peu à la différenciation entre histoire et mémoire. Et le troisième axe, c'était de travailler à l'articulation entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. Voilà. Donc le CVUH, vous avez raison, est un collectif d'historiens, c'est une association qui est ouverte à tous et qui vise à fabriquer des outils de débat dans l'espace démocratique. Et des outils de débat qui soient issus véritablement des compétences des historiens-chercheurs et des enseignants.
Et alors, comment est né ce livre ?
Alors, d'abord, vous avez raison de dire qu'il est étroitement lié au CVUH, plus que ça, puisque le CVUH a un partenariat signé donc avec Agone, qui est donc l'éditeur dans lequel nous avons sorti cet ouvrage. Il y a déjà un premier ouvrage qui est sorti, Gérard Noiriel, « Qu'est-ce que l'identité nationale ?». Et ce second ouvrage est né d'un texte que nous avons écrit il y a un an, très exactement, lorsque nous avons constaté qu'il y avait effectivement un usage assez compulsif de l'histoire dans les discours électoraux de Nicolas Sarkozy. Et donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait interroger ça un petit peu? Et à 4 ou 5, on a écrit un long texte qui s'appelle « Le rêve passéiste d'un futur national libéral », où on a dégagé un certain nombre de thématiques à partir des discours électoraux. Et ce texte a eu dans la blogosphère notamment un succès assez foudroyant.
Oui, il est toujours accessible sur Internet.
Il est accessible sur notre site du CVUH et il a été visité. Alors il a été repris par un nombre de sites incroyable et il a été visité, je crois, plus de 25 000 fois. Donc, et du coup, à partir de là, on s'est dit peut-être qu'il serait bon de systématiser un petit peu cette critique et de travailler un ouvrage plus exhaustif sur cette question-là qui nous semblait revêtir une acuité particulière dans ce contexte d'abord électoral et puis présidentiel.
Alors j'imagine qu'il a fallu constituer un corpus. Alors avec quel corpus est-ce que vous avez travaillé? Et puis la seconde question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi avoir choisi cette forme du dictionnaire? Fanny. Alors, Madeleine.
Le corpus, on a travaillé principalement sur les discours de campagne qui sont accessibles en ligne sur le site de l'Élysée ou sur des sites divers. Donc on les a indexés, on a essayé de rechercher toutes les occurrences historiques dans ces discours. Et là, on a été frappé d'abord par la prolifération de ces références. On les a pas toutes retenues, on a retenu une cinquantaine, mais il y en avait facilement le double. Et donc on a fait notre corpus en sélectionnant à la fois les références qui étaient le plus souvent citées, mais aussi des références qui n'étaient pas très souvent citées, mais qui nous paraissaient significatives. C'est par exemple le cas de la notice Jeanne d'Arc, qui n'est citée que deux fois dans le discours de Nicolas Sarkozy, mais qui en fait a une symbolique mémorielle assez importante. C'est aussi le cas de la notice Communautarisme ou Lévi-Strauss.
Et alors pourquoi un dictionnaire ?
Alors le dictionnaire, ça visait à mettre en valeur justement l'usage que Nicolas Sarkozy fait de la référence historique, c'est-à-dire en fait, il l'utilise il pioche en fait dans le passé, dans l'histoire de France, pour agrémenter ses discours. Et donc on voulait faire une sorte de guide, ouais, en quelque sorte, de petit guide historique, pour remettre en place et resituer les références historiques telles qu'elles étaient utilisées par Nicolas Sarkozy et leur déformation politique.
Oui, oui.
Il y a aussi une dimension un petit peu jeu de piste en fait dans la forme qu'on a choisie, c'est-à-dire que chaque notice renvoie aux autres et donc il y a une, Fanny parlait tout à l'heure de guide, oui, c'est presque un guide touristique, hein, c'est-à-dire que c'est un dictionnaire que les gens peuvent prendre à chaque fois qu'ils écouteront leur président et puis du coup se référer à chaque notice, puisqu'on a constaté que c'était à la fois une stratégie électorale et que c'est devenu en plus une pratique de gouvernement, hein, donc c'est complètement d'actualité et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Donc voilà, il y a une dimension un petit peu ludique, hein, une dimension un peu jeu de loi, et puis une dimension très pratique et analytique. Voilà.
Et alors, en quoi il y a un investissement, une instrumentalisation de l'histoire spécifique à Nicolas Sarkozy par rapport au récit de l'histoire nationale assez convenu qui pouvait être celui de ses prédécesseurs ?
Comme on le rappelle en introduction, ça n'a rien d'inédit, hein, le fait qu'il y ait des usages de l'histoire par les présidents de la République ou par les politiques en général. Le fait qu'il y ait des politiques ou des stratégies mémorielles mises en place par les chefs d'État n'a rien d'inédit, n'a d'ailleurs pas forcément quoi que ce soit de scandaleux. Mais en revanche, il y a des éléments qui nous ont paru particulièrement significatifs chez Nicolas Sarkozy. Il y en a plusieurs. D'abord, il y a une sorte d'usage compulsif de l'histoire, hein. C'est-à-dire que c'est véritablement devenu un rituel, hein, que de faire appel au passé de la France et d'aligner tous ces personnages. La deuxième chose, c'est effectivement dans l'alignement des personnages.
Oui, vous avez écrit un article, Laurence de Coq, litanie dans le...
Voilà, donc cette mécanique discursive un petit peu sous le registre de la litanie qui fait se rencontrer des personnages qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres, ni idéologiquement, ni même d'ailleurs sur le plan du contexte historique. Donc là, il y a quelque chose d'inédit. Et puis je crois que la troisième chose, c'est qu'il y a une temporalité propre à Nicolas Sarkozy qui procède vraiment par effet d'annonce et par mise en spectacle de l'histoire. Mise en spectacle et mise en scène de l'histoire. Donc là, on est dans la politique spectacle plus, et ça nous a paru être en revanche inédit dans la pratique gouvernementale.
Oui, Fanny Madeline.
Oui, alors aussi, ce qui était assez étonnant, c'était de voir que Nicolas Sarkozy, justement, captait des figures qui étaient habituellement attribuées à l'héritage de la gauche. Et donc, du coup, il y avait justement cette volonté de ramener à lui, hein, dans un panthéon national, des figures qui, jusqu'à présent, étaient plutôt distribuées selon des mémoires politiques différentes.
Oui, il y a une forme de syncrétisme historique qui pourrait s'opposer à ce que Nicolas Sarkozy appelle le communautarisme historique qui serait celui de la gauche. Et dans lequel on reconnaît bien les idéologues du régime, Max Gallo, Henri Guénaud. Et alors ce syncrétisme historique, en même temps, il a un sens. Enfin, au-delà même du clivage gauche-droite, est-ce qu'on ne peut pas y reconnaître aussi tout simplement la filiation bonapartiste ? Il y a un article consacré à Napoléon Ier, un autre à Napoléon III. Justement, quel est le rapport, la filiation construite entre Nicolas Sarkozy et l'héritage bonapartiste ?
Alors, il y a plusieurs points, hein, dans votre question. D'abord, effectivement, revenir un petit peu sur les têtes pensantes, les têtes historiennes pensantes de ce régime. Hein. Vous avez cité Max Gallo, c'est le grand inspirateur du rapport de Nicolas Sarkozy à l'histoire, et en particulier à travers sa réflexion, entre guillemets, sur la fameuse âme de la France, l'idée étant que il y a une matrice, hein, il y a une matrice dans laquelle tous les personnages, quelles que soient leurs acquaintances politiques, se fondent, et donc cette âme viendrait un petit peu subsumer tous les clivages et puis formerait notre matrice, enfin la matrice de notre identité nationale. C'est véritablement ça qui dicte la logique sarkozienne de l'histoire. Maintenant, la filiation bonapartiste, alors c'est pas une filiation directe, hein, évidemment ce serait à affiner, mais on ne pouvait que pointer les similitudes entre cette volonté justement de vouloir réconcilier les contraires, volonté qu'on pourrait qualifier rapidement, mais en même temps de façon, à mon avis, assez juste, de populiste, hein, donc oui. Bonapartiste, populiste.
Et il y a une figure quand même qui est très intéressante dans ce contexte, c'est celle de Marc Bloch, alors figure totalement instrumentalisée, détournée, avec notamment la référence à cette phrase très célèbre de L'étrange défaite, mais que Nicolas Sarkozy n'avait de cesse de répéter durant la campagne électorale, où Marc Bloch dit « Il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération ». Et on parle aujourd'hui peut-être d'une panthéonisation de Marc Bloch.
Oui, alors il faut absolument lire la notice de Gérard Noiriel, hein, sur, ouais, Marc Bloch. Elle est passionnante et elle est tout à fait juste. Marc Bloch, si vous voulez, c'est la figure emblématique du monde des historiens. Hein. Donc quand on sait qu'on va être critiqué, faire référence à Marc Bloch quelque part, c'est une sorte de pare-feu extrêmement efficace, hein, parce que Marc Bloch, c'est la figure consensuelle du monde des historiens. Et Gérard Noiriel, qui connaît extrêmement bien l'œuvre de Bloch, montre que cette phrase est complètement tirée de son contexte, hein, retirée de son contexte. Bon, ça, c'est la mécanique de Nicolas Sarkozy, ça n'a rien d'inédit. Mais il montre bien que Marc Bloch, en disant cette phrase, se plaignait tout simplement d'une sorte de confiscation qui était faite aux éléments populaires de modalités de reconnaissance dans la démocratie. Voilà. Donc ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait Nicolas Sarkozy, qui lui en fait au contraire le prétexte à montrer que tout le monde doit se reconnaître dans les grands événements fondateurs de la France. C'était pas du tout le discours de Marc Bloch, au contraire. Le discours de Marc Bloch était justement d'en revenir à une histoire populaire et au fait de donner la parole aux gens. Voilà. Donc là, c'est plus qu'un détournement, c'est une véritable falsification malhonnête de la pensée de Marc Bloch.
Et alors, toujours dans la même ligne d'idées, vous parlez d'un usage dépolitisé de l'histoire. On pense notamment à l'instrumentalisation de la figure de Guy Moquet, dont l'engagement communiste est totalement escamoté dans le discours sarkozien.
Oui, alors effectivement, c'est le but, hein, de ce syncrétisme historique, que l'expression, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée, c'est même en fait une théorie qui a été élaborée par Henri Guénaud, qui est en fait, qu'il a baptisé la désaffiliation, hein, qui visait en fait à casser justement les affiliations mémorielles systématiques, et donc qui visait justement à dépolitiser tout. La figure de Guy Moquet, la figure de Jaurès, la figure de Blum, pour pouvoir finalement les faire mieux cohabiter avec les figures de la droite traditionnelle qui étaient utilisées, comme le général de Gaulle, par exemple. Donc là, on assiste effectivement à une dépolitisation qui vise finalement à créer une sorte de mémoire nationale dans laquelle se reconnaîtraient tous les Français et qui, en fait, ne serait pas une mémoire... serait une mémoire qui serait, comme on l'explique dans l'introduction, hein, ni de droite, ni de gauche, ni communiste, ni socialiste, etc., mais qui serait tout à la fois et rien en même temps. Ouais. Donc...
Oui, Nicolas Hoffenstadt parle à un moment de bande dessinée œcuménique qui intégrerait comme ça des figures a priori tout à fait contradictoires. Alors, Fanny Madeline, vous avez rédigé la plupart des articles consacrés aux références médiévales mobilisées par Nicolas Sarkozy, un article sur le féodalisme, sur Charlemagne, sur la France fille aînée de l'Église avec Yann Potin. Alors, par exemple, quel usage de la France médiévale, des références médiévales, fait Nicolas Sarkozy ?
Alors, en fait... Et le vrai discours, enfin le seul discours où il y a une véritable instrumentalisation du Moyen-Âge par Nicolas Sarkozy, c'est le discours du Latran. Hein, on voit apparaître ici la figure de Clovis, puis celle de Pépin le Bref, pour venir consolider l'idée que la France, l'idée que l'Europe aurait des racines chrétiennes, hein, et que la France aussi. Et donc là, on voit effectivement l'histoire venir accompagner ce discours. Dans les autres notices, en réalité, Nicolas Sarkozy utilise plutôt des topoi, comme Charlemagne, qui a été, comme je l'ai expliqué dans les notices, quasiment systématiquement utilisé quand on construisait un discours sur l'Europe, alors avec justement des héritages pas toujours avouables. C'est le même principe pour féodalité, c'est-à-dire qu'en fait, il utilise ce terme historique pour ne pas utiliser le terme de clientélisme, par exemple, qui est beaucoup plus évocateur aujourd'hui et qui, en fait, renvoie particulièrement à ses propres pratiques.
Alors, un autre thème important, évidemment, dans le discours sarkozyste, c'est tout ce qui concerne le passé colonial de la France et tout ce discours qui se veut hostile à ce qui serait la tendance de la repentance. La colonisation dont Nicolas Sarkozy dit qu'il ne fut pas tant un rêve de conquête qu'un rêve de civilisation. Alors, Laurence de Coq, vous avez écrit l'article Afrique. Et alors, comment est-ce qu'on... peut analyser le discours sarkozyste et les références sarkozystes concernant le passé colonial de la France.
Alors d'abord, il y a quatre notices qui se répondent sur cette question-là. Donc il y a effectivement Afrique, qui revient plus précisément sur le fameux discours de Dakar. Il y a passé colonial, il y a repentance et lioté. Les concepteurs des discours de Nicolas Sarkozy connaissent très bien les débats sur le fait colonial. C'est les fameux débats d'ailleurs qui ont surgi dans l'espace public en 2005. Et ce sont des débats, vous le savez, qui ont un peu clivé la réflexion en deux, entre ceux qui prétendaient que connaître le passé colonial allait justement permettre de revenir un petit peu sur une forme de culpabilité, hein, et puis ceux qui disaient qu'au contraire, ça ne servait à rien de passer par les traumatismes historiques, puisque ça allait fabriquer de l'anti-France, etc. Et la stratégie de Nicolas Sarkozy, qui se fait donc le ventriloque de ces deux idéologues, la stratégie de Nicolas Sarkozy est d'essayer de court-circuiter ce débat en disant finalement non à la repentance, mais non aussi à l'occultation du débat. Donc il y a une mécanique qui est extrêmement subtile dans ces discours, qui vise d'abord à reconnaître les méfaits entre guillemets de la colonisation. Mais ensuite, par toute une sorte de mécanique rhétorique extrêmement bien huilée, ensuite à en arriver finalement à la conclusion que malgré tout, nous, peuple porteur des Lumières, eh bien, nous leur avons tout de même apporté la civilisation. Ouais. Et le discours de Dakar, il est emblématique de ça. D'abord parce que Nicolas Sarkozy se contrefiche de l'Afrique, il n'y connaît strictement rien, et qu'il commet une bourde absolument remarquable en commençant son discours par une sorte de confiscation de l'historicité de l'Afrique. Hein. Donc en disant que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, qu'elle a un temps cyclique, etc. C'est-à-dire que, sans doute à son corps défendant, il reprend exactement les vieux poncifs des discours qui venaient valider la colonisation. Voilà. Donc, c'est une forme, si vous voulez, de, là encore, hein, de brouiller, une volonté de brouiller le débat en disant « Non, non, mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que ça a été bien, je ne suis pas non plus de ceux qui pensent que ça a été mal, il faut dépasser, il faut regarder l'avenir, tout ça, c'est du passé, on s'en fiche, on n'a pas à assumer les fautes de nos ancêtres. » Et en même temps, quand on lit entre les lignes, on se rend bien compte qu'on est complètement dans la filiation de la mission civilisatrice. Ouais. Sauf que lui parle de projet de civilisation. Ouais.
Et on se rend compte en lisant les différentes notices en même temps que son discours change un peu selon les interlocuteurs à qui il fait face. Face aux associations de rapatriés d'Algérie, c'est un discours finalement très 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 semblable au discours d'Algérie française qui était ceux des années 60, etc.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que, en fait, Nicolas Sarkozy donne toujours des signaux. Il donne des signaux aux gens auxquels il s'adresse. Donc, c'est vrai que le discours, comme le discours de Toulon, par exemple, est un discours dans lequel il donne des signaux d'adhésion aux prises de position des associations dont vous parlez. Mais malgré tout, dans ce discours, il y a aussi des éléments qui vont contre la colonisation. C'est là où c'est effectivement assez subtil. Ça procède par des envois de signaux dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. C'est l'objet même, de toute façon, de la politique sarkozienne, c'est-à-dire que c'est de la fabrication du consensus. Nicolas Sarkozy a horreur du conflit, il a horreur de la conflictualité politique, il vise au consensus. Et ses discours, sous couvert de donner des signaux à tous ceux qui veulent bien l'entendre, sont malgré tout des discours qui visent à fabriquer du consensus.
Alors quand même, une question qu'on se pose, c'est que cette entreprise de réécriture, avec les amalgames qui la caractérisent, a fonctionné. Et ça pose la question, en tout cas, que vous pointez bien en introduction, de la conscience historique et de son articulation avec la conscience politique. Parce qu'il est vrai, comme le dit Nicolas Sarkozy, que François Hollande ne cite pas beaucoup Jaurès. Et qu'à ce titre-là, il y a aussi, en tout cas, une mémoire commune de la gauche qui s'est probablement progressivement effacée pour que... Mais c'est la théorie de la désaffiliation dont vous parliez tout à l'heure de M. Guénot. Alors...
Oui, alors ça c'est évidemment un point fondamental de tout ce travail. Si on voulait être un petit peu cynique, on dirait que Nicolas Sarkozy n'a évidemment aucun intérêt à ce que les gens acquièrent une conscience politique. C'est pas le seul hein, d'ailleurs. Oui. Et donc effectivement nous faisons partie au CVUH de ceux qui considèrent que la conscience historique est un substrat nécessaire à la conscience politique. Pourquoi ? Parce que l'analyse d'un moment historique, c'est l'analyse de la complexité d'un moment historique et donc le fait de dégager des enjeux qui sont propres à un moment historique. Et ce sont ces enjeux, cette réflexion sur les enjeux, qui sont susceptibles de devenir des outils dans le débat démocratique contemporain. Donc lorsque Nicolas Sarkozy brouille volontairement les pistes, lorsqu'au contraire il lisse toute cette complexité, lorsqu'il brouille ce clivage droite-gauche, eh bien, on voit bien qu'il y a une stratégie justement de court-circuit d'une possible conscience historique, de telle sorte à ce que justement la conscience politique ne se fabrique pas, ne s'élabore pas.
Mais alors, cette crise justement de la conscience historique, en introduction, vous l'inscrivez dans l'ensemble d'un panorama européen.
Oui, alors en fait, ça c'était la partie qui a été attribuée à Sophie Vanhish, donc c'est elle qui serait la plus à même à développer cet aspect-là. Donc c'est ce qu'elle explique en fait dans la dernière partie de l'introduction, en essayant de montrer en fait, notamment en comparant les politiques en Italie et en France, hein, où elle dit, par exemple, chez Nicolas Sarkozy, il faut absorber toute l'histoire pour effacer les clivages et les filiations. Chez les néo-conservateurs italiens, il faut rejeter tout en bloc afin de n'avoir plus, dans la filiation politique ou générationnelle, de responsabilité historique spécifique.
Oui.
Donc elle montre, en fait, comment l'histoire, les usages de l'histoire sont utilisés différemment dans une configuration, mais en fait à des finalités identiques.
Ouais. Alors juste pour terminer, en préparant cette émission, vous m'avez dit qu'il y avait encore d'autres projets possibles autour de cette réécriture sarkozienne de l'histoire. Alors quels seraient-ils ?
D'autres projets possibles. Non, disons que ce qu'on voulait dire, c'est que cette stratégie électorale, on s'en doutait, se poursuit dans la pratique gouvernementale. Hein, donc on l'a vu avec l'affaire de la lecture de la lettre de Guy Môquet, de ce rituel initiatique dans les lycées au moment de chaque rentrée. On l'a vu très récemment avec cette décision extraordinaire de confier la mémoire d'un enfant mort de la Shoah à des élèves de CM2. Il fallait quand même le faire pour prendre une décision politique sur cette question et se retrouver avec Simone Veil en face de soi qui soulève un bouclier, c'est quand même assez grandiose. On l'a vu aussi avec le discours de Dakar, hein, puisque ce discours est un discours présidentiel, pas électoral. Donc on voit bien que ça devient une pratique gouvernementale et là, ce qui nous attend, donc à travers les nouveaux programmes scolaires, je pense au programme scolaire de l'école primaire, ou même ce superbe projet de musée dont vous allez bientôt entendre parler, musée d'histoire civile et militaire aux Invalides, on voit bien qu'il y a une forme de concrétisation de cette pensée avec entre guillemets, parce que c'est pas une pensée, on va dire, de cette idéologie sarkozienne de l'histoire. Donc il faut être très vigilant. On a comme président aujourd'hui une sorte d'instituteur national, c'est-à-dire d'historien officiel. Voilà. Et ça ne semble pas vouloir s'arrêter pour le moment.
Oui, d'ailleurs, l'histoire qu'il réécrit est en fait une histoire très inspirée de l'histoire qui avait cours sous la Troisième République, qui est une histoire inspirée du Petit Lavis ou du Tour de France par deux jeunes enfants, et qui est une histoire simpliste. Hein, c'est une histoire pour les primaires, donc c'est une histoire qui lisse. La complexité historique qui évacue la conflictualité. Donc, c'est un peu cette histoire-là que Sarkozy plutôt nous récite que qu'il réécrit véritablement.
Ouais. Laurence de Kock, Fanny Madeline, merci beaucoup. Donc, malheureusement, notre émission touche à sa fin. On se quitte en musique avec Colette Magny, Aragon, Richard de 40.
La patrie est comme une barque qu'abandonnèrent ses haleurs. Et je ressemble à ce monarque plus malheureux que le malheur, qui restait roi de ses douleurs. Vivre n'est plus qu'un stratagème. Le vent s'est mal séché les pleurs. Il faut haïr tout ce que j'aime. Ce que je n'ai plus, donnez-leur. Je reste roi de mes douleurs. Le cœur peut s'arrêter de battre, le sang peut couler sans chaleur. Deux et deux ne fassent plus quatre, aux pigeons volent des voleurs. Je reste roi de mes douleurs. Que le soleil meure ou renaisse, le ciel a perdu ses couleurs. Tendre Paris de ma jeunesse, adieu printemps du quai aux fleurs. Je reste roi de mes douleurs. Fuyez les bois et les fontaines. Taisez-vous, oiseaux querelleurs.